France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le département de la Sarthe est à l'honneur cette semaine puisque le jeu des 1000 euros est à la Suze sur Sarthe. Et aujourd'hui, je passe un coup de fil à une ferme du réseau Accueil Paysan à Mansigné, près de la Flèche. Accueil Paysan, ce sont des fermes ouvertes au public pour des animations en tout genre, un peu partout en France. Des fermes engagées en faveur d'une agriculture paysanne et d'un tourisme durable. Mais avant cela, une initiative nationale. Parlons de sécurité sur deux roues. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Et si le port du casque à vélo devenait aussi évident, aussi banal que le port de la ceinture de sécurité en voiture ? On n'y est pas encore, hein. Il suffit de regarder passer les deux roues en ville pour constater que les têtes nues sont légion. Eh bien voici une invention qui pourrait changer les choses, un casque qui se fixe au vélo sur un socle installé à l'avant du vélo, car c'est en effet parce que le casque est encombrant que beaucoup décident de s'en passer. Bonjour Elias Hamzaoui.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes lauréat du concours Lépine 2023 pour cette invention qui s'appelle OBH Mobility. Comment est née cette idée d'abord ?
Eh ben, cette idée d'encombrement du casque, moi je l'ai vécu notamment quand j'avais vécu en Australie où le port du casque est obligatoire. Mmh. Et c'est vraiment ce qui m'a sensibilisé à mettre mon casque au quotidien. Et j'ai eu beaucoup d'encombrement avec ce casque quotidiennement. Et lorsque je suis rentré en France, en fait je m'étais dit assez basiquement « Ah bah, plus personne va mettre le casque, ça sera plus un sujet. » Et moi déjà je me sentais mal de pas mettre mon casque et j'ai pu m'apercevoir que beaucoup de gens mettaient le casque et que c'était pas une histoire de loi et qu'il y a une vraie problématique sur l'encombrement du casque que j'ai souhaité résoudre.
Alors à quoi ressemble ce kit OBH Mobility ? Il y a un socle sur le vélo, je le disais, et le casque est doté d'une accroche, hein, c'est ça ?
C'est ça exactement, c'est pour ça qu'on parle de kit, parce que le kit est composé d'un casque spécifiquement fait pour rester à l'extérieur, parce qu'il va toujours être sur le vélo, d'un socle d'accrochage qui va permettre de verrouiller le casque sur le vélo et d'une fixation spécifique qui accroche le socle d'accrochage sur le vélo. Mmh. La fixation peut permettre de le mettre sur le guidon ou également sur le porte-bagages, comme ça on a plusieurs positions ou même sur une trottinette.
Il y a deux versions de ce kit parce que l'une des deux est connectée, je crois.
Exactement. On a connecté tout ça, pas pour le plaisir et pour faire de la technologie, mais surtout parce qu'on voulait également, on veut l'introduire dans des services de vélo et de trottinette partagée, où quand on vient débloquer un vélo, on passe par son application. Et donc, en connectant tout ça, on peut s'intégrer sur un service très facilement. Et pour un usage individuel, on y a même rajouté une alarme anti-vol pour lutter contre le vol du vélo en plus de verrouiller son casque sur son vélo.
Si je vous comprends bien, vous espérez vendre ce kit aussi bien aux particuliers qu'aux prestataires de vélos partagés.
Exactement, la cible est double. Et en fait, on veut s'adresser à tout le monde, que ce soit un service d'un prestataire, d'un opérateur ou d'un particulier. Et on veut être un nouveau standard de sécurité. Vous l'avez dit au début, comme la ceinture de sécurité avec la voiture. On ne vient pas dans la voiture avec sa ceinture, elle est déjà fixée sur la voiture. On aimerait que ça soit pareil pour le casque.
Mais pourquoi ne pas simplement accrocher son casque avec l'antivol au vélo ?
Eh bien, c'est une solution, mais il y a beaucoup de gens qui ne la font pas. Première raison, c'est que les casques classiques, s'il pleut, ils vont être imbibés d'eau, ils vont être tout mouillés, ils vont se dégrader très vite. Et la deuxième raison, c'est qu'il faut un cadenas qui traverse les sangles et le casque peut se retrouver un peu par terre. Hygiéniquement parlant, on est un peu craintif. Nous, notre casque, on l'a fait pour qu'il puisse résister à l'eau et qu'il sèche très rapidement. J'aime bien utiliser la comparaison d'une frite de piscine. Oh. Et ben notre casque, c'est pareil. Lorsqu'il va se mouiller, il va sécher extrêmement rapidement et ça va être vraiment un casque fait pour rester à l'extérieur.
J'attrape votre casque, vous êtes venu avec un kit en studio. Il est effectivement très léger, il a la même matière que ces fameuses frites de piscine. Pourquoi c'est important ?
Il n'a pas exactement la même matière, c'est une
mousse. Ça ressemble à la texture.
Ça ressemble à la texture, mais c'est une mousse qui va elle être plus focalisée sur l'absorption de choc. Et notamment, on utilise une mousse dite multi-impact qui va pouvoir supporter plusieurs chocs et toujours garder sa capacité d'absorption de choc, ce qui n'est pas le cas des casques classiques. Et le fait de tout rechanger cette conception, on en a profité aussi pour le fabriquer en France et participer à cette réindustrialisation de la filière du cycle qu'on entend beaucoup. Parce qu'actuellement, 80% des casques du marché sont faits en Chine. On les importe, ils subissent un choc ou ils ont une durée de vie de 3 ans. et il faut les détruire parce qu'ils sont pas recyclables. Nous, on le fabrique en France, on le recycle et on le réutilise dans la fabrication de nouveaux.
Alors, où en êtes-vous de votre projet? Je le disais, lauréat du concours Lépine en 2023. La commercialisation a démarré tout juste. Quels sont les projets pour la suite?
Exactement. Et ben, la société a été lancée en 2021 et c'est que maintenant, après 2 ans de développement et 1 année d'industrialisation, qu'on commercialise notre produit. Et depuis mars 2025, on a plusieurs implantations, notamment dans des services de vélo public de villes et de collectivités, notamment à La Roche-sur-Yon. Et on a également un premier référencement dans des magasins de vélos qui vendent notre casque. Donc ça s'annonce bien et motivant d'atteindre cette phase après 3 ans de développement. C'est super excitant.
Et au fait, pourquoi ce nom, OBH Mobility?
Eh ben, ce sont les initiales de Onboard Helmet, qui est le vrai nom de la société et qui signifie casque embarqué en anglais. On voulait un nom anglais parce qu'on veut être un nouveau standard international de la ceinture sécurité, d'où se positionner en nom anglais. Et on y a créé la marque un peu plus simple, OBH, les initiales.
Combien ça coûte, ce kit?
Eh ben, on a 2 modèles, comme vous l'avez cité, et on en a un qui est le kit à serrure, qui est à 149 €, et un autre, le kit connecté, qui intègre l'alarme anti-vol, et aussi une option de géolocalisation de son vélo, qui est à 249 €.
Et vous garantissez au fait que le kit à serrure est inviolable, pas de vol de casque possible?
C'est ça, on garantit qu'il est inviolable. Ce qui est possible, c'est du vandalisme de casque, comme on peut vandaliser un vélo, mais par l'usage, on se rend compte que c'est assez rare. Et effectivement, on protège bien contre le vol, même si c'est pas finalement la première fonction de protéger contre le vol. La vraie fonction, c'est surtout de faire inciter à prendre les bonnes habitudes en matière de sécurité, parce que quand on a son casque sur son guidon, on se sent vraiment bête de pas l'utiliser, et c'est comme ça qu'on s'incite automatiquement à le mettre.
Merci beaucoup, Elias Hamzaoui, créateur de OBH Mobility. Bonne journée.
Merci beaucoup à vous et bonne journée.
France Inter. Carnet de campagne.
Une paysanne animatrice est l'invitée des carnets aujourd'hui. Elle est la patronne d'une ferme pédagogique, un endroit où les enfants et les adultes peuvent venir découvrir les animaux de la ferme et en particulier les personnes porteuses d'un handicap. Bonjour Marion Pinson.
Bonjour Dorothée Barba.
La ferme du Long Réage est située à Manzigné, pas très loin de la Flèche. Alors elle est accessible, hein, cette ferme, notamment grâce à une plateforme électrique sur laquelle on peut monter un fauteuil roulant. Vous avez une forte demande de la part des structures qui accueillent des personnes avec un handicap?
Oui, j'ai beaucoup de demandes, notamment les IME avec des adolescents en situation de handicap mental et puis aussi des adultes qui sont en foyer de vie. Et donc, la ferme leur apporte énormément du fait qu'ils viennent régulièrement sur la ferme.
D'ailleurs, la plateforme pour les fauteuils n'est pas le seul aménagement inclusif dans votre ferme, je crois.
Non, j'ai également aussi des tableaux qui m'ont été offerts par une éducatrice spécialisée pour les enfants qui n'ont pas le langage, enfin les enfants et les adultes d'ailleurs, qui n'ont pas le langage. Et donc, ils peuvent montrer avec des pictogrammes adaptés à chaque animal de la ferme pour pouvoir s'exprimer et qu'on puisse se comprendre ensemble, quoi.
C'est essentiel pour vous qu'une ferme pédagogique soit inclusive, Marion?
Alors oui, c'est essentiel, et autant pour moi parce que je prends énormément de plaisir, mais surtout pour eux parce qu'ils se découvrent une passion pour les animaux, de l'intérêt pour leur bien-être, et ça c'est vraiment... Ça leur rappelle des moments à eux qu'il faut manger, qu'il faut boire, qu'il faut avoir un lit douillet pour pouvoir dormir. Voilà, et du coup ça leur rappelle aussi à eux en fait.
Vous sentez qu'il y a une fonction apaisante peut-être aussi de la ferme sur certains publics?
Ah oui, parce qu'en plus moi de temps en temps j'interviens directement dans leur structure et je vois bien qu'ils sont pas pareils quand ils sont à la ferme que quand ils sont dans leur IME par exemple.
Qu'est-ce qu'on a comme animaux à la ferme du Long Réage?
Alors, on a des chèvres, des moutons, des poules, des lapins, des canards, un âne, des cochons. Et puis, on a des abeilles aussi. Pour les chèvres et les moutons, j'ai choisi des animaux qui viennent des pays de la Loire ou du Grand Ouest. Donc, j'ai des chèvres, des fossés et des moutons bleus du Maine. C'est vraiment des moutons de la région. Et puis après, ça marche avec l'affect, en fait. Il y a des animaux qui seront plus aptes à être en contact d'enfants ou d'adultes que d'autres. Et donc, je ne peux pas garder tout le monde. Je sélectionne en fonction de leur caractère.
Votre ferme bénéficie du label Accueil Paysan. Quelle valeur représente pour vous ce label?
Alors c'est un réseau de paysans et de paysannes géniales ou géniaux, je sais pas comment on dit, mais qui sont désireux de transmettre des belles valeurs sur le bien-être animal, la saisonnalité, et donc ce label me tient vraiment à cœur parce qu'il y a vraiment de belles personnes et de très beaux lieux qui donnent envie de partager quoi.
Qu'est-ce que vous avez à cœur de transmettre au fond avec cette ferme pédagogique? Quelle est la raison d'être de votre métier, Marion?
Moi, ma raison d'être, c'est de comprendre à quoi ça sert l'élevage, à quoi ça sert d'avoir des animaux, de comprendre ce que l'on mange, pourquoi on les mange, quand est-ce qu'on mange des tomates, une carotte, que les poules, ça a des plumes et que ça vit avant de se retrouver dans notre assiette. Et puis de transmettre aussi un peu des valeurs ancestrales que l'on transmet depuis des générations et des générations qui sont en train de se perdre, en fait. Ça me paraît primordial et important de comprendre d'où vient toute notre alimentation, pas que des animaux, mais aussi des végétaux.
Est-ce que vous avez un moment marquant à me raconter dans votre ferme pédagogique ?
Ah oui, j'en ai un qui me vient en tête tout de suite. C'est un monsieur qui est dans un EHPAD. Et de temps en temps, ils viennent à la ferme. Et ce monsieur, depuis qu'il est rentré à l'EHPAD, ne parlait pas. Et quand je lui ai posé un lapin sur les genoux, il m'a regardé avec des yeux d'enfant. Et il m'a dit, je me rappelais pas que c'était si doux un lapin. Et là, tout le monde s'est tu et m'a regardé en disant, mais vous avez fait parler ce monsieur qui ne parle plus depuis qu'on le connaît. Et ça, c'était vraiment un instant magique. J'en ai encore des frissons, d'ailleurs, à le raconter.
C'est contagieux, figurez-vous. Vous lui avez posé un lapin, c'est quand même assez magique. Voilà. Sur les genoux.
Oui, oui.
Marion Pinson, vous êtes par ailleurs formatrice de profs. Vous participez à des formations « L'école du dehors ». Les enseignants et enseignantes apprennent à enseigner en plein air, à faire la classe dans la forêt par exemple. Qu'est-ce que vous leur apprenez concrètement ?
Alors, je leur apprends que le milieu naturel peut être leur salle de classe pour une demi-journée par semaine ou tous les 15 jours et qu'on peut utiliser le support nature comme outil pédagogique, même si on ne connaît pas la nature. Mais on peut apprendre à calculer la circonférence d'un cercle, par exemple, en calculant la circonférence d'un arbre. Et tout de suite, c'est plus concret. Et en fait, c'est apprendre aux enseignants que tout ce qui nous entoure peut être sujet à apprentissage et qu'ils peuvent apprendre même s'ils n'ont pas de table, de chaise, de tableau. Et que souvent, on n'a pas besoin d'avoir une grosse forêt juste à côté de l'école, juste un parc, ça suffit pour pouvoir apprendre dehors.
Donc vous quittez la ferme hein, pour ces formations, ça ne se passe pas dans votre ferme pédagogique ?
Oui, c'est ça, je vais directement dans les écoles. Et puis après, je fais généralement leur première sortie avec eux. C'est extraordinaire et je travaille énormément sur la commune d'Allonne, dans la Sarthe. Et c'est des enfants que je suis de la crèche jusqu'au CP. Et donc, voilà, c'est des enfants qui sont très éveillés à la nature, même s'ils habitent en ville, quoi.
La ferme pédagogique du Long Réage, c'est donc à Mansigné dans la Sarthe. Merci beaucoup Marion Pinson.
Merci beaucoup Dorothée.
Et bonne journée, à bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Et je remercie toute l'équipe des carnets de campagne, Sophie Hoffmann et Lila Rapoport à la préparation des émissions, les techniciennes et techniciens qui se relaient tous les jours. Aujourd'hui, Laurent Baudouin était à la technique. Sachez que le Pas-de-Calais sera bientôt à l'honneur dans les carnets, ainsi que les Côtes d'Armor et le Finistère. Vous pouvez nous écrire pour signaler des gens géniaux et des initiatives réjouissantes dans ces départements des Hauts-de-France et de Bretagne. Pas-de-Calais, Côtes d'Armor, Finistère.